Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié chez Dunod en 2023. Géostratégiques 2, les grands enjeux du monde contemporain est une bande dessinée de vulgarisation consacrée aux relations internationales et aux transformations du monde actuel. Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques, en signe le scénario. Tandis que Tommy donne une forme visuelle aux notions, cartes, portraits et situations abordées. En 128 pages et 110 planches. Le livre propose un panorama organisé en trois mouvements : la scène internationale, les principales aires régionales et les défis géopolitiques transversaux. Son objectif ne consiste pas à fournir une chronique exhaustive de chaque crise, mais à donner des repères pour lire les rapports de force. Identifier les acteurs influents et comprendre les interdépendances mondiales. Les États y côtoient les organisations internationales, les entreprises, les ONG, les opinions publiques et les plateformes numériques. Le dispositif graphique cherche ainsi à rendre accessibles des mécanismes souvent traités dans des manuels plus denses, sans effacer la complexité des enjeux étudiés. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la scène internationale comme système de relations et de pouvoir. Le livre commence par installer un cadre essentiel : la géopolitique ne se réduit ni aux conflits armés, ni aux décisions des seules grandes puissances. Elle étudie un système de relations où plusieurs acteurs disposent de ressources, de contraintes et de capacités variables. Géostratégiques 2 revient ainsi sur la mondialisation, sur la formation des instances internationales et sur le rôle des États, des firmes multinationales, des ONG et des opinions publiques. Cette entrée permet de comprendre pourquoi une décision nationale peut avoir des effets bien au-delà des frontières, notamment dans les domaines commercial, sanitaire, climatique ou numérique. L'ouvrage souligne aussi que les organisations internationales répondent aux besoins de coopération, sans supprimer les rivalités entre gouvernements. Leur action dépend de règles, de financement et surtout de la volonté politique des États qui les composent. La présentation des facteurs de puissance apporte une grille de lecture concrète : forces militaires, populations, ressources naturelles. Maîtrise technologique et capacité économique ne produisent pas automatiquement une influence équivalente. Ils doivent être transformés en stratégie et en pouvoir de négociation. Cette approche évite donc de juger la position des pays selon un seul indicateur. Elle montre que la puissance est relationnelle, évolutive et exposée aux effets de la mondialisation. Deuxièmement, les aires régionales pour éviter une lecture uniforme du monde. La deuxième partie organise le panorama autour de plusieurs espaces Europe, États-Unis, Asie, Afrique, Amérique latine et monde arabe. Ce choix rappelle que les grands enjeux ne prennent pas le même sens selon les régions, leurs histoires, leurs institutions, leurs ressources et leur insertion dans les échanges mondiaux. Une analyse de la puissance américaine ne répond pas aux mêmes questions que celle de la diversité asiatique, des trajectoires africaines ou des dynamiques latino-américaines. Le livre ne présente donc pas un monde divisé de manière simpliste entre un centre dominant et des périphéries passives. Il invite plutôt à observer des zones traversées par des rapports de dépendance, des ambitions d'autonomie et des rivalités internes. La place de la Chine et de la Russie est notamment envisagée dans le cadre plus large des équilibres régionaux et globaux, plutôt que comme une succession de portraits isolés. La démarche est utile pour interpréter les crises, les alliances, les routes commerciales, les héritages coloniaux. Les frontières et les ressources pèsent différemment selon les contextes. Les cartes et les éléments visuels jouent ici un rôle méthodique. Ils permettent de situer les acteurs, de matérialiser les distances et de relier un fait politique à un espace. Cette géographie des rapports de force donne au lecteur des repères pour comparer les influences sans les confondre. Troisièmement, les défis transnationaux dépassent les frontières sans les rendre secondaires. Géostratégiques 2 consacre une part importante aux défis qui dépassent le cadre national : guerre. Risques nucléaires, terrorisme, criminalité organisée, changement climatique, démographie et migration. Le regroupement de ces thèmes met en évidence une tension centrale du monde contemporain. Les problèmes circulent à travers les frontières, mais les réponses restent largement décidées par des autorités nationales dont les intérêts peuvent diverger. Le défi nucléaire illustre particulièrement cette situation : la dissuasion, la prolifération. Le désarmement et les mécanismes de contrôle relèvent à la fois de la sécurité des États et de la stabilité collective. De même, le climat exige une coopération durable alors que les coûts de transition, les responsabilités historiques et les priorités de développement font l'objet de désaccords. Les migrations ne sont pas réduites à une question de frontières. Elles sont liées aux inégalités, aux conflits, aux évolutions démographiques et aux choix politiques des pays de départ, de transit et de destination. En rapprochant ces dossiers, le livre fournit moins des solutions prêtes à appliquer qu'une méthode de lecture : identifier les causes multiples, distinguer les échelles locales, régionales et mondiales. puis examiner les intérêts en présence. Cette méthode protège contre les explications uniques. Elle fait comprendre que les enjeux globaux demandent des coopérations internationales, tout en révélant les limites concrètes de celles-ci. Quatrièmement, démocratie. Numérique et intelligence artificielle comme nouveau terrain de rivalité, le livre aborde la démocratie. Le numérique et l'intelligence artificielle comme des questions géopolitiques, et non comme de simples sujets techniques ou institutionnels. La démocratie pose la question de la diversité des régimes politiques, de la circulation des modèles et de la place des libertés publiques dans les relations internationales. Le traitement de son universalité conduit à distinguer un principe revendiqué à grande échelle de ses applications concrètes, souvent contestées ou inégales. Le numérique modifie quant à lui les capacités de communication, de surveillance, de mobilisation et de diffusion d'informations. Les géants du numérique rejoignent ainsi les États et les organisations dans la liste des acteurs capables d'influer sur la scène internationale. Cette évolution invite à regarder qui contrôle les infrastructures, les données et les normes technologiques. L'intelligence artificielle prolonge cette interrogation, car elle dépend de ressources stratégiques telles que les données, les compétences, les capacités de calcul et les composants électroniques. Le mérite de cette partie est de relier des innovations récentes aux mécanismes classiques de la puissance. La technologie peut renforcer une autonomie stratégique, accroître une dépendance ou ouvrir un domaine de compétition entre acteurs. Le recours à la bande dessinée aide à rendre ces enjeux moins abstraits. Mais le propos conserve une idée directrice, les mutations numériques transforment les rapports de force autant que les pratiques quotidiennes. En dernier lieu, une bande dessinée documentaire qui privilégie les repères et les connexions, la spécificité de GeoStrategix 2, réside dans son format de bande dessinée documentaire. Pascal Boniface condense un vaste ensemble de notions, tandis que Tommy combine planches en deux couleurs, cartes explicatives, portraits et séquences humoristiques. Ce choix formel ne remplace pas une enquête académique approfondie sur chaque dossier. Il répond à une autre fonction, donner une architecture lisible à des connaissances dispersées dans actualité, manuels et commentaires médiatiques. Les images peuvent rendre immédiatement perceptible une hiérarchie, une opposition ou une localisation, là où un texte continu demanderait davantage de temps. Les touches humoristiques contribuent à maintenir la lisibilité de sujets graves sans modifier leur nature. Elle facilite la mémorisation et crée des respirations dans un parcours très dense. La construction en trois parties constitue également un outil pédagogique cohérent. Elle part des règles générales de la scène internationale, passe par les espaces régionaux, puis examine des défis qui traversent ces espaces. Le lecteur peut donc relier un événement à des acteurs, à une zone géographique et à une problématique mondiale. Cette organisation est particulièrement adaptée à une première approche ou à une remise en ordre des connaissances. Elle encourage une lecture comparée des situations plutôt que la recherche de récits isolés ou de causalités immédiates. En conclusion, GeoStrategix 2 convient en priorité aux lecteurs qui cherchent une première cartographie intellectuelle de la géopolitique contemporaine lycéens, étudiants débutants, enseignants. Lecteurs de presse souhaitant consolider leurs repères ou personnes curieuses intimidées par les ouvrages très techniques. Il peut aussi servir de support de révision ou de point de départ avant des lectures plus spécialisées. Son bénéfice pratique est de fournir des catégories d'analyses réutilisables face aux événements, quels acteurs sont concernés, quelles ressources fondent leur influence. Quelle échelle géographique est pertinente et quels intérêts limitent la coopération. Sur le plan intellectuel, il aide à relier sécurité, climat, migration, institutions, économie et technologie au lieu de les considérer comme des rubriques séparées de l'actualité. Par rapport à un manuel universitaire, son traitement reste nécessairement synthétique et ne vise pas le détail documentaire ou la controverse approfondie. Sa différence tient précisément à cette capacité de synthèse visuelle. Les cartes, portraits et séquences dessinées rendent la densité du sujet plus abordable, tandis que la structure progressive conserve une ambition de panorama. Face aux essais géopolitiques centrés sur une crise ou une puissance précise, le livre privilégie les connexions entre les phénomènes. Il se distingue enfin des ouvrages purement illustratifs par la présence de notions structurantes sur la mondialisation, les facteurs de puissance et les défis transnationaux. Il est donc surtout utile comme instrument de compréhension générale, clair et organisé, plutôt que comme source unique pour suivre en profondeur une crise particulière. Si vous souhaitez soutenir Pascal Boniface, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.